Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un jeune couple dont j'allais baptiser l'enfant. Et comme ils viennent de temps en temps à la messe, ce qui est quand même assez rare de la part des parents qui viennent faire baptiser leur enfant, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais quels seraient pour vous les thèmes qu'il faudrait traiter en homélie? Et alors là, ça a été le cri du cœur de sa part à elle. Elle a dit, pourquoi il n'y a pas de femme prêtre? L'évangile de ce dimanche s'y prête très bien avec l'appel des 12, des 12 apôtres, des 12 hommes comme apôtres, d'autant qu'on est donc au lendemain, au surlendemain de la fête du cœur sacré de Jésus, qui était la journée mondiale de prière pour les prêtres, et qu'en plus ce dimanche, c'est la fête des pères. Autant de raisons pour y réfléchir, pour revenir sur ce sujet difficile, parfois douloureux. Première remarque dans l'évangile, la compassion de Jésus. La compassion de Jésus devant les foules désemparées, perdues comme des brebis sans berger, montre que ce n'est pas au nom d'une quelconque virilité qu'il appelle des hommes. On peut être bergère aussi bien que berger. Il faut pouvoir simplement garder à l'esprit solidement que ce choix est un choix de Dieu, que c'est une décision divine, prise par Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans la prière, avec son Père. Ce que l'évangile de Saint-Luc relate de façon très précise, quand Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu, et le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, 12 hommes. Pas par négligence, par oubli des femmes, pas sous l'influence de son époque ou de quelques préjugés de quelque ordre que ce soit. Il est Dieu. Il est Dieu, tout puissant, d'une liberté absolue et souveraine. Ne prendre que des hommes comme apôtres, comme successeurs des apôtres, et dans la tradition catholique comme prêtres, c'est un choix de Dieu, qui fait partie de la révélation, que nous devons accueillir humblement dans l'obéissance de la foi à Dieu qui révèle et dû l'obéissance de la foi, à accepter comme un mystère, c'est-à-dire un mystère que nous ne cessons d'approfondir, de scruter, comme le mystère d'ailleurs de la différence sexuelle de l'homme et de la femme, mais avec cette humilité fondamentale pour toujours également garder l'esprit qu'il y a infiniment plus de choses que nous ne comprenons pas, pas uniquement dans le domaine religieux, dans tous les domaines, il y a infiniment plus de choses que nous ne comprenons pas qu'il n'y en a que nous comprenons. Il faut pouvoir quand même rappeler cela à la raison, surtout contemporaine, à tous ceux qui sont rationalistes, de dire que les connaissances humaines sont microscopiques au regard de l'univers et au regard de l'histoire. Les changements de la société depuis 2000 ans nécessitent d'approfondir ce mystère, d'y réfléchir, ne serait-ce que pour nous, pour pouvoir en rendre compte, pourquoi il n'y a pas de femmes prêtres dans l'Église catholique. La prêtrise n'est pas un métier. Si c'était un métier composé de techniques et de pratiques, de choses à apprendre, de choses à faire, de choses à savoir, il n'y aurait aucune raison de ne pas l'ouvrir aux femmes, au contraire. Ce n'est pas un métier, c'est littéralement un sacerdoce, un service sacré auquel on est appelé par Dieu, la lettre aux Hébreux, de façon extrêmement forte, et la tradition a toujours retenu cette formule, dit « Nul ne s'attribue ce service à lui-même, nul ne s'arroge à soi-même, on y est appelé par Dieu. » Et la lettre aux Hébreux, dans cette phrase, ajoute ceci et dit « Comme à Aaron ». Il ne dit pas comme Moïse, ce qui est tout à fait, ce aurait été plus logique dans le mouvement même de la révélation, au cœur même de l'Alliance. On n'y est pas appelé par Dieu comme Moïse. Dans ce service, on y est appelé comme Aaron, c'est-à-dire celui qui est chargé de seconder. De seconder, en l'occurrence Moïse, mais d'être tout à fait second dans la révélation. Et la révélation s'est poursuivie avec une autre affirmation, du moins une autre lumière essentielle donnée par le prophète Osée, qui dit que non seulement que dans cette relation d'amour entre Dieu et l'humanité, qui est le fondement même de l'alliance, il y a une relation plus qu'amoureuse, quasiment sponsale. C'est un lien pratiquement d'épousailles que Dieu veut faire, pas seulement avec son peuple, avec toute l'humanité. Voilà ce que le prophète Osée révèle. Et tout l'Ancien Testament, dans un mouvement mais évidemment immense, prépare et préfigure celui qui est l'unique et véritable époux, le Christ, l'accomplissement de toute cette révélation. Et c'est le Christ Jésus que le prêtre dans l'Église a pour mission de représenter. Telle est l'explication d'ailleurs que l'Église, officiellement dans son magistère, donne à l'impossibilité d'ouvrir le sacerdoce aux femmes. Il y a eu en particulier une lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi au milieu de 1976, du 15 octobre 1976, qui dit que c'est par nécessité de ressemblance naturelle, fondamentalement à la messe, dans les sacrements. Si le rôle du Christ n'était pas tenu par un homme, il serait très difficile de voir dans le ministre l'image du Christ, car le Christ a été et demeure un homme. On peut toujours imaginer, parce qu'aujourd'hui nous vivons une époque un petit peu de folie, on peut toujours imaginer que pour représenter quelqu'un, y compris que ce soit au cinéma, dans un film, au théâtre, on prenne n'importe quelle personne indépendamment de son sexe, que pour, par exemple, on ferait un nouveau film sur Jeanne d'Arc et on prendrait un homme pour la représenter. Je suis convaincu que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas seulement une nécessité de ressemblance naturelle, c'est une nécessité de vérité historique, au même titre que le pain et le vin avec lequel nous célébrons l'Eucharistie. Pourquoi célébrons-nous uniquement, exclusivement, avec du pain et du vin? Parce que le Christ a pris du pain et a dit « ceci est mon corps ». Parce que le Christ a pris du vin et a dit « ceci est mon sang ». Et si le Christ a pris du pain, c'est bien sûr pour rappeler, en souvenir, de la manne au désert, quand son Père a nourri son peuple affamé, de la même façon que l'agneau pascal, l'agneau de Pascal, préfigurait son sacrifice, figure fondamentalement le sacrifice du Christ comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, dit le chant du serviteur, le serviteur souffrant. Car qui a conduit Jésus à la mort? Qui l'a trahi, rejeté, abandonné? Des hommes! Ces hommes-là, même, à qui Jésus s'est livré lui-même. Et voilà ce qui devrait nous empêcher toute sacralisation excessive du sacerdoce et du prêtre. Nous amener, nous prêtres, en permanence à la conversion pour que le prêtre représente du mieux qu'il puisse le Christ et ne cherche surtout pas à imiter ou ne sombre pas à imiter le grand prêtre de l'époque qui l'a fait condamner. Nous ne vivons pas dans un univers de création où l'homme et la femme étaient ou seraient sans péché et dans une véritable égalité. Nous vivons dans un univers de rédemption où c'est à cause du péché que Dieu s'est fait homme. C'est à cause du péché qu'il a fondé l'Église. C'est à cause du péché qu'il a appelé des prêtres à combattre ce péché d'abord en eux-mêmes. Parce qu'en tout prêtre, la figure du Christ reste voilée. Voilée par nos faiblesses, par la faiblesse de l'homme. Parfois, j'entends, on me dit même à moi-même en disant, on peut être déçu. Mais effectivement, on peut être déçu. C'est pas qu'on peut être déçu, c'est qu'on prend conscience des faiblesses de la personne. Tout prêtre peut devenir un saint ou un traître. Voilà la ligne de crête du sacerdoce. Voilà pourquoi les prêtres ont plus que jamais besoin de nos prières, de toutes nos prières. Alors on va dire, c'est vrai de tout baptiser. Oui, c'est vrai de tout baptiser. Sauf que le prêtre, il a cette mission donnée par le Christ, cette décision divine, de le représenter, d'agir dans les sacrements in persona Christi, en la personne même du Christ, pour le rendre présent. Et puis il y a une troisième raison Après, la première raison qui est de signifier les noces de l'agneau, les noces de Dieu, l'épousaille de Dieu avec l'ensemble de l'humanité. La deuxième raison, c'est cette nécessité de ressemblance naturelle et de vérité historique. La troisième raison pour laquelle les prêtres sont des hommes de sexe masculin s'appelle la paternité. Il importe peu que notre époque la conteste. Il importe au contraire que nous en retrouvions le sens. Quel est effectivement le sens de la paternité? Parce que, de même que le rôle du père, c'est d'élever l'enfant. D'élever l'enfant dans la confiance et la sécurité, de l'élever avec sa mère, pour l'amener à la liberté, pour l'amener à la maturité, en lui permettant justement de trouver progressivement et fondamentalement la juste distance à l'égard de sa mère, qu'il a portée en son sein, qu'il a engendrée, qu'il a nourrie, de pouvoir trouver cette distance à l'égard de sa mère. De la même façon, le rôle du prêtre, c'est de permettre à tout baptisé de grandir dans la foi, mais de trouver aussi une juste distance à l'égard de l'Église, pour que notre unique référence soit le Christ. Le seul et véritable époux, le Christ. Voilà en quelque sorte ce double rôle, s'il fallait simplifier, du prêtre. D'une part, de représentation du Christ Jésus dans les sacrements, et d'autre part, de conversion constante à la douceur et à l'humilité. Le mouvement de l'histoire, ce n'est pas que les femmes deviennent arrogantes, vaniteuses et musclées. Ce n'est pas la disparition de l'altérité et de la différence des sexes. Mais que les hommes apprennent des femmes le service de la vie, la consolation des petits. Que chacun puisse considérer, admirer le meilleur de l'autre, s'en inspirer sans chercher à le remplacer. Nous avons pour cela une maîtresse de vie spirituelle, un guide immense. La première de l'humanité, c'est la Vierge Marie. Je vous parlerai dimanche prochain de cette dévotion au cœur immaculé de Marie.